Bonjour, Jack de Josier. Juste pour signaler que le flash avant l'émission, il y avait le loup dans le Finistère, en provenance du sud de la France où il aurait été réintroduit. Or, il n'a pas été réintroduit du tout. Le loup est venu naturellement depuis l'Italie. Merci de corriger.
Oui, bonjour, c'est Anne, une voisine d'Ardès. Actuellement, vous êtes sur la Drôme. Je voulais remercier pour l'intervention de Marc Fauriel hier sur Camille Passauer. Ça fait quelques temps que j'écoute plein d'émissions, et là, par hasard, je les ai écoutées. Moi, je suis du milieu paysan, et j'en ai marre que tout soit bien d'un côté, tout soit mal de l'autre. J'ai un peu oublié comment les paysans ont vécu et comment ils vivent actuellement. Et je remercie vraiment Marc Fauriel pour son intervention et sa dédramatisation des choses. Et voilà, il vend dans la grande distribution, il vend du bio, il le vend aussi au Biocoop. Et ça permet à tout le monde d'en profiter. Et voilà, j'espère que vous interviewerez un peu plus des gens comme ça pour rétablir les liens. Merci.
Bonjour à Carreau Carré, Karim à Lyon. Ça fait déjà plusieurs années que je ne vois plus d'hirondelles dans ma région. Je vois bien des martinets qui sont revenus à l'heure, je dirais. Mais plus d'hirondelles, c'est quand même très inquiétant quand même. Merci, au revoir.
Oui, bonjour, c'est François de Lille. Je vous appelle, vous êtes un petit peu ma chlorophylle journalière. Donc, je voulais réagir à votre émission et je voulais laisser un message au petit garçon Anatole, en fait. Je voulais lui dire simplement que c'était tout chance qu'il faisait, en fait. Et je voulais lui dire simplement qu'il continue un petit peu s'assumer. Il s'est teinté d'espoir, en fait. Et ses sillons sont parsemés de notre joie. À bientôt, au revoir.
Oui, bonjour, Mathieu. C'est François de Beaumont-en-Diois, pratiquement aux sources de la rivière Drôme. Et je m'étonne que vous n'ayez pas parlé des problèmes de la chasse dans la rivière Drôme, justement. Eh bien, la chasse continue aux dépens de tous les oiseaux d'eau qui voudraient venir s'y reposer dans une réserve naturelle. Donc, c'est bien dommage et il y a quelque chose à faire. Bon séjour chez nous et revenez quand vous voulez. À bientôt.
Merci François, et on reviendra, ça c'est sûr, croyez-nous. Quant à la chasse, effectivement, le sujet n'a pas été abordé au bord de la Drôme, mais c'est vrai qu'on le traite régulièrement avec Camille dans cette émission. En attendant, le répondeur de la Terre au Carré, c'est le 01 56 40 45 45. Laissez-nous vos messages pendant tout le week-end pour nous dire comment vous avez vécu, par exemple, cette semaine drômoise derrière votre poste. Et c'est donc aujourd'hui notre dernière escale dans la Drôme après une semaine déjà très riche en rencontres et en biodiversité. Et aujourd'hui, pour refermer l'album printanier de nos quatre saisons, eh bien, nous posons nos micros dans une ferme qui ne laisse personne indifférent. On vient en effet de partout pour la voir et rencontrer ses propriétaires qui, depuis plusieurs années, dessinent les contours d'une agriculture paysanne très diversifiée où l'écologie tient une place centrale. Bienvenue dans la ferme du Grand Laval, donc située à Montélier entre le massif du Vercors et les montagnes de l'Ardèche. Cette ferme est une petite exploitation agricole bio qui intègre pleinement la vie sauvage, on va le voir. 17 hectares de polyculture et élevage, on va vous expliquer ce que c'est, avec un système pensé pour offrir par exemple une autonomie absolue en intrants. C'est aussi un laboratoire pour expérimenter des transformations profondes, très inspirantes, et que nous allons vous faire découvrir avec donc Sébastien Blache et Elsa Gartner. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Merci de nous accueillir chez vous. Très heureux de boucler cette série de directs dans votre ferme qui, je dois le dire, nous a donné beaucoup d'espoir pendant qu'on l'a visité hier, parce qu'à l'heure où les études justement montrent que les effets des pesticides sont tout à fait dévastateurs dans le secteur de l'agriculture en particulier, eh bien on peut découvrir que d'autres manières de faire sont possibles et qu'elles donnent des résultats très puissants pour le vivant. Sébastien, Elsa, on va faire donc le tour du propriétaire avec les auditeurs et nous serons accompagnés d'un homme qui vous a qualifié de diplomate intérieur espèce. Il s'agit du philosophe Baptiste Morisot. Bonjour à vous Baptiste.
Bonjour.
Merci d'être également avec nous. Vous connaissez parfaitement évidemment ce lieu. Vous en avez beaucoup parlé, en particulier dans un livre « Raviver les braises du vivant »
Absolument.
Qui avait été publié chez Actes Sud. Et c'est exactement l'effet que procure la découverte de cette ferme. On se sent ravivé après l'avoir visité. Donc on en parle tous ensemble dans un instant. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
Dernier jour de votre visite classe verte aujourd'hui.
Et j'ai fait le réveil des serpents. Je suis partie sur les traces des reptiles sortis de leur hibernation en relevant des plaques posées exprès pour qu'ils qu'ils s'abritent et se réchauffent dessous. Une sorte de chasse aux œufs version rampante à écailles.
On va voir.
Attendez, juste avant de souvenir, s'il sort et qu'il passe entre mes jambes, je fais rien, on est d'accord?
Non.
Ok. Non, ça craint rien. Et de toute façon, il aura tendance à partir vers les broussailles, mais bon, c'est jamais.
Possible que je pousse un petit cri, si c'est le cas.
Non. Allez, qui soulève? C'est vous, Manon.
Et serpent ou pas serpent, bah vous le saurez tout à l'heure.
Suspense. Voilà pour le sommaire de cette Terre au Carré, réalisé par Valérie Ayestaraï et Théo Raison. Le dossier a été concocté par Anna Massardier et Marion Philippe. Guillaume Rialan est chargé de la production de l'émission. Olivia Branger, Nicolas Mathias et Loïc Frapsos sont à la technique.
Mathieu Vidard, la Terre au Carré. Sur France Inter.
Les quatre saisons de la Terre au Carré, c'est le printemps dans la Drôme.
Sébastien Blache, Elsa Gartner, vous nous accueillez donc cet après-midi dans votre ferme du Grand Laval avec le philosophe Baptiste Morisot qui nous accompagne. Alors Sébastien, pour commencer, pour nos auditeurs, il faut absolument situer l'emplacement de votre ferme sur la carte de la Drôme, car vous êtes dans un endroit tout à fait particulier avec deux massifs finalement qui nous entourent ici.
Exactement, on est en plein milieu de la vallée du Rhône. Là, on est à 10, enfin, un peu moins de 10 km du Vercors, un peu moins de 10 km de l'Ardèche. C'est l'endroit où la vallée du Rhône est la plus large. Et on est dans l'endroit où, en fait, se pratique la grande culture dans la vallée du Rhône, un petit peu à l'image de ce qui se fait dans le bassin parisien. Ce qui fait que la plupart des gens qui traversent notre vallée du Rhône à cet endroit-là la regardent d'un regard méprisant, ouais, en disant « il n'y a strictement rien qui se passe ici ». Ah, c'est joli, le Vercors derrière, quoi.
C'est ça. Donc, on est à la campagne, on entend le ruisseau qui coule juste à côté de nous, les oiseaux, et pourtant, on est à 10 minutes de Valence et à moins d'un kilomètre de la voie TGV.
On est à moins d'un kilomètre de la voie ferrée TGV, on est à 2h15 de Paris.
Ouais.
Hein, donc, on est vraiment dans un des gros lieux de communication de France. Hein. On est dans ce carrefour, là. Voilà.
Est-ce qu'on va entendre passer le TGV, Elsa, pendant cet après-midi
Je sais pas, là c'est vent du nord, en général on l'entend avec le vent du sud.
Qu'est-ce que ça veut dire la ferme du Grand Laval? Il vient d'où ce nom?
C'est le lieu. En fait ici c'est le Grand Laval, à côté il y a le Petit Laval, c'est le quartier.
Baptiste Morisot, c'est assez déconcertant finalement de se trouver dans un tel endroit si près justement d'une grande ligne TGV, mais c'est aussi assez réjouissant au fond de se dire qu'on n'est pas obligé de rechercher l'isolement absolu dans la Pampa pour créer un espace aussi vivant. Hein.
Ouais, c'est l'une des forces de l'endroit. Quand on voit aussi de quoi il est entouré, hein, c'est quand même un paysage qui hérite du remembrement agricole, qui hérite d'une tradition de grande culture monoculturale avec beaucoup d'intrants. Et là, il y a ce petit écrin qui a été transformé et qui commence à prendre un autre visage et qui accueille des dynamiques qu'il n'y a pas ailleurs et qui sont, comme vous le dites, même à l'œil, assez puissantes en fait.
C'est vrai.
Et il n'y a pas de connexion, enfin j'imagine que si, vu qu'il y a les sols, mais Sébastien Blache, entre justement les éventuels pesticides qu'il peut y avoir un peu partout dans la zone, ils n'arrivent pas à arriver chez vous?
Ah ben si, forcément.
Comment vous gérez ça?
Ben on ne le gère pas, en fait, ça fait partie de nos contraintes. Le vent transforme, on sait qu'il y a des pesticides en Antarctique, donc en fait... Bien sûr, nos voisins utilisent des pesticides. Quand il y a du vent, c'est transporté tout doucement. Nous, on sent les épandages. À chaque fois qu'il y a des épandages, on sent les solvants. Donc non, ça fait partie complètement de l'enjeu, quoi. On est au milieu de ça. Ouais.
Alors, c'est une ferme familiale que vous avez reprise, hein, Sébastien Blache. Vous étiez ornithologue à la base.
Tout à fait. Ouais. Mon arrière-grand-père était paysan ici. Mon grand-père était paysan ici. Ça a sauté une génération.
Ouais.
Un oncle a pris la suite et moi j'ai pris la suite il y a 15 ans de ça, tout simplement. Mais en fait, pas vraiment de la ferme. J'ai repris une parcelle là ici qui est ici, qu'on a transformé du coup en ferme.
Ouais.
Par contre, on a redonné une vie.
Le lieu qui est ici, donc, c'est rempli de haies, il y a des mares, des herbes folles partout, évidemment des cultures, des animaux. Il faut l'imaginer comment il y a 15 ans ici, Elsa?
Eh bien, vide, sans rien.
Rien du tout.
Grande monoculture, un grand champ sans arbres.
Tous ces arbres, ils ont 15 ans, alors c'est ça? Tous ceux qui nous entourent, là, toutes les haies?
Elle a 15 ans, celle-ci a 15 ans. Alors après, il y en a des un peu plus jeunes.
Ouais.
Mais effectivement, ouais, elles ont 15 ans. Et ça pousse vite, ça va vite.
Mais ça, c'est réjouissant aussi, quand même.
Ça, c'est chouette, ouais. Ça, c'est assez rassurant.
Ouais. Oui, complètement, moi, de voir que le paysage s'est transformé. Et puis, on a encore les traces de l'ancien paysage autour.
Ouais.
Donc, en fait, à chaque fois, nous, qu'on sort, qu'on prend la voiture et qu'on va à Valence, on voit ce qu'était la ferme avant. Et quand on rentre dans la ferme, la transformation. Donc ça, c'est vraiment
C'est vraiment très parlant et c'est criant. De d'année en année, c'est criant. Ouais. Les arbres prennent du volume et ils sont de plus en plus présents.
Elsa, est-ce que vous êtes dromoise ou pas?
Ardéchoise.
Ah oui, alors vous avez fait le trajet.
Traversé le Rhône.
Elle a traversé le Rhône, voilà, exactement. Alors vous faites partie tous les deux, Elsa et Sébastien, de ce réseau Ferme Paysanne Sauvage. On va en parler évidemment avec vous. Sébastien, votre ferme est basée sur la polyculture élevage. Alors en quelques mots, ça veut dire quoi, polyculture élevage?
Bah, polyculture élevage, c'est tout simplement qu'on travaille, on cultive des végétaux et on élève des animaux et on fait cohabiter le tout ensemble.
Ouais.
En tout cas, moi, la vision que j'ai de la polyculture élevage, c'est une polyculture élevage où tout s'appuie dessus, les animaux s'appuient sur les végétaux cultivés de la ferme et l'inverse. Et on n'est pas dans un système où on va essayer de déséquilibrer, c'est-à-dire qu'on a le nombre d'animaux qu'on peut nourrir, mais tout ne transite pas forcément par les animaux. On peut aussi cultiver des légumes secs qu'on n'est pas obligé de faire manger pour les animaux, pour les valoriser, ils peuvent être vendus directement. Voilà. Et c'est cette diversité de culture et d'élevage qu'on caractérise comme de la polyculture élevage chez nous.
Baptiste Morisot, Mathieu disait dans le sommaire que vous parlez de Sébastien en particulier comme diplomate interespèce. Qu'est-ce que ça veut dire?
En fait, ce qui est vraiment fort ici, c'est que il y a une sorte de sensibilité, de connaissance fine des différentes espèces qui habitent le lieu, que ce soit les variétés domestiques ou les espèces sauvages, et de leur rôle écologique, la manière dont elles fonctionnent ensemble pour faire vivre l'écosystème qu'est la ferme. Et ben, l'enjeu, c'est de les connaître suffisamment finement pour arriver à cohabiter ensemble, pour arriver à négocier des relations pas trop antagonistes, pas trop violentes, tout en sachant bien que le vivant, c'est pas angélique, c'est pas quelque chose de bucolique ou d'harmonieux. C'est vigoureux, c'est des relations qui sont compliquées, mais en même temps, à partir du pari que la richesse et la diversité, même un peu conflictuelles, sont plus importantes que une simplification du milieu ou une homogénéisation du milieu.
Sébastien disait, on essaie de pas déséquilibrer les choses, mais là-dessus, vous pourriez contredire, Baptiste Morisot, parce qu'au fond, l'agriculture, c'est un déséquilibre en soi de notre relation à la nature et au sol. Hein.
Absolument, mais c'est pas le contredire, parce que c'est lui qui m'a expliqué ça. C'est Sébastien qui m'a livré cette idée, où on prend un peu de recul historique et on se rend compte qu'en fait, tout milieu agricole déséquilibre l'écosystème dont il hérite. Pour une raison assez simple, c'est que la densité, par exemple quand vous faites du pommier, la densité, le nombre de pommiers que vous mettez quelque part, vous ne la retrouvez pas dans les écosystèmes spontanés. Et ce faisant, ce déséquilibre va attirer par exemple des ravageurs ou des bioagresseurs qui peuvent pulluler. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour hériter de ce déséquilibre, pour ne pas l'approfondir et pour essayer au contraire de trouver des harmonies qui sont fragiles.
Illustration de cette ferme du Grand Laval, une première illustration. Elsa, il faut nous décrire l'endroit où on se trouve. On est devant un enclos avec une petite barrière électrique, là. Des pommiers.
C'est ça.
Des moutons.
Des brebis.
Et alors, on voit pas les chiens, là. Ils sont pas là, là. Où est-ce qu'ils... Vous pourriez l'appeler ou pas?
Oui, on va l'appeler.
Et venir.
Eden. Eden. Ils obéissent très, très fort.
Oui, c'est ça. Ah, ouais. Il y a deux chiens.
Eden, viens là.
Alors pourquoi? On va voir la taille de ces chiens parce qu'ils sont planqués pour l'instant, mais ils sont chargés de garder les moutons.
Alors en attendant qu'il arrive, le chien éventuellement, Elsa, c'est une sorte d'harmonie, tiens, dont parlait d'ailleurs Baptiste Morisot à l'instant, ces moutons, ces brebis au milieu de ces pommiers.
Eh ben, c'est alors là, une des grandes difficultés en arboriculture, c'est de gérer l'enherbement. Alors c'est pas la seule, mais c'est ce qu'on essaie de faire en mettant les brebis du coup dans le verger, et les brebis, elles vont tout simplement manger l'herbe.
Ouais.
Il y a un des chiens, pourquoi, par rapport au loup, Sébastien Blache?
Oui. En fait, là, maintenant, les meutes de loups, elles sont présentes. On est même devenu une des communes de zone présence permanente du loup, ce qui est assez incroyable. Hein. Montpellier, j'aurais jamais imaginé ça. Et du coup, on est obligé d'être dans cette idée de la protection du troupeau si on veut pas travailler en se faisant trop mal au ventre en permanence. Donc les chiens, nous, on les avait anticipés. Parce qu'on a aussi, quand on a des brebis, on attire aussi les autres chiens, chiens des promeneurs. Et donc, en mettant des chiens de protection, ça a tout résolu. Et en même temps, du coup, ça a résolu le problème du loup chez nous.
C'est des maus costauds, hein, les chiens. Hein. Enfin, le premier, parce que l'autre, il a 2 mois. On le voit pas, mais...
C'est des bergers d'Anatolie qu'on a. Donc, c'est des chiens qui font une cinquantaine de kilos.
Ils sont planqués.
Ils font la sieste.
On parle de loup. Je vous vois habillé. Vous êtes quasiment camouflé aujourd'hui, je peux le dire. Vous êtes tout en vert camouflage, presque. Est-ce que c'est comme ça que vous êtes quand vous pistez le loup? C'est la clé aussi ou pas?
Je crois que je suis toujours comme ça. Maintenant, je suis toujours comme ça.
C'est son dress code.
Ouais, c'est ça permet pas d'avoir à réfléchir vert.
Mais ça permet quand même de mieux, c'est une vraie question derrière la petite blague, mais ça permet de mieux s'insérer dans le paysage ou pas?
Oui, oui, ça permet de se mettre à l'unisson et puis que spontanément de ne pas faire fuir les animaux et d'être un peu plus discret quand on piste ou quand on est sur le terrain. Ouais.
Allez, on va rendre visite aux poules qui sont juste à côté. Si les chiens se réveillent, on aura leur faire un petit coucou tout à l'heure.
Ils obéissent bien.
Oui, c'est ça. Ouais.
Ils sont assez réveillés.
Ah, ça y est. Elle va venir en courant.
Ah, on la voit. Ouais. Ah, elle est plus grande que les moutons, dis donc.
Allez, on se retrouve dans un instant en direct de la ferme du Grand Laval à Montélier, juste après Oliver Sim et Romance with a Memory. Si vous nous rejoignez, on termine notre semaine dromoise dans la ferme du Grand Laval chez Sébastien Blache et Elsa Gartner, en compagnie également du philosophe Baptiste Morisot. Elsa, ça y est, les brebis nous ont rejoints avec les deux chiens. Alors, un Maus costaud et un bébé de 2 mois, mais qui est déjà très costaud lui aussi.
Et hein. Qui est très très mignon.
Il est tellement mignon là.
C'est deux races différentes d'ailleurs. Hein.
Oui, il y a un Cao Degado Transmontano qui vient du Portugal, ouais. Et un berger d'Anatolie.
Sébastien, là aussi, il y a un choix d'avoir une diversité dans les races ou pas?
On aime bien tester le truc, là, dans l'idée que chaque chien a sa manière de travailler. Il y en a, ouais, qui travaillent loin autour du troupeau, il y en a qui travaillent au troupeau. Et ça augmente la capacité de résister, ouais, aux attaques. Quoi.
Et vous me disiez, on les a pas vus parce qu'ils dormaient. Faut dire que ces chiens-là bossent toute la nuit pour faire face aux loups, en fait.
Toute la nuit, en fait, ils sont en vigilance et on les entend en permanence aboyer quand il y a un truc.
Je crois qu'on a perdu Camille, d'ailleurs.
Je suis obligée de les abandonner, mais c'est avec grand regret.
Baptiste Morisot, là, on va rejoindre les poules qui, elles aussi, donc, sont dans un petit enclos avec un poulailler un peu particulier. On va le décrire. Il y a d'autres arbres fruitiers. On aperçoit des nichoirs. Finalement, vivre, travailler ici, Baptiste, c'est composer aussi avec tous ces prédateurs que sont les loups ou les renards.
Oui, il y a ce grand enjeu. Encore une fois, il ne faut pas, comment dire, s'apesantir trop sur cette idée d'harmonie ou de rêve un peu bucolique. Travailler avec du vivant, c'est toujours compliqué parce qu'il y a des intérêts divergents, il y a une grande complexité. Et il faut arriver à récolter, avoir de la nourriture dans un monde dont on accepte la richesse, la diversité et les relations de prédation.
Quoi. Ouais. Encore faut-il connaître, en fait. Est-ce que c'est pas ça, finalement, la clé? C'est de savoir un petit peu comment il y a toutes les interactions et faire en fonction, parce que s'il n'y a pas de connaissances à la base, c'est compliqué, non?
Oui, c'est vrai que c'est exigeant en connaissance un peu fine du comportement, des habitudes des animaux. Et c'est l'une des clés. Puis après, il y a aussi une question d'attitude. C'est la capacité à accepter la contradiction, à accepter un monde ambivalent et à pas vouloir détruire tout ce qui s'oppose à nos intérêts directs. Quoi.
Ouais. Elsa Gartner, alors il faut décrire la vie des poules parce qu'on a l'impression qu'elles ont une petite roulotte rien que pour elles. Et ça, c'est leur poulailler sur roue.
Alors c'est ça, elles ont une petite roulotte rien que pour elles qu'on déplace régulièrement dans le verger pour éviter d'avoir un impact trop important au sol.
Et donc puis, ce sont des poules mobiles.
C'est ça.
Ben oui.
La caravane des
c'est
poules.
C'est ça. Et puis surtout, elles viennent fertiliser directement les arbres. Elles viennent réduire aussi un peu la végétation au pied des arbres.
Ouais.
Et puis, elles sont bien, on le voit. Enfin, la poule, c'est un animal forestier. Qu'on met nous dans des buissons sous des arbres et elles s'y sentent vraiment bien.
Elles ont l'habitude de percher pour éviter les prédateurs.
Exactement.
Justement. Vous en avez combien et combien de coqs ?
On a à peu près 200 poules. Alors là, il y en a, elles y sont pas toutes, il y en a que la moitié et on met environ un coq pour 10 poules. Parce qu'on fait notre reproduction en fait, toutes les poules qu'on a sont nées ici.
Il y en a deux qui viennent, deux coqs là, qui sont en train de se chercher un peu.
Il y a des moments un peu délicats comme ça.
Sébastien Blache, Elsa a parlé rapidement, mais c'est important, de fertilisation. Et là, il faut parler du rôle écologique de ces poules, parce qu'elles ne sont pas là juste à picorer. Elles ont un rôle également pour vous, qui vous évite, par exemple, de mettre des pesticides ici. Hein.
Elles contribuent à tout cet équilibre qu'on essaie de trouver, en fait. Les poules et les brebis aussi. Hein.
Ouais.
C'est exactement la même chose depuis je fais un petit passage par les brebis, mais depuis qu'on a mis des brebis dans le verger, on n'a plus de problème de campagnols. Alors qu'avant, c'était l'enfer, les campagnols. Les poules, c'est pareil, se posent la question là, elles sont sous dépêchées, il y a un petit papillon, la tordeuse orientale, probablement la kinafos dans le sol, probablement que les poules, elles leur mènent un peu la vie dure. Mmh. Non, tout ça, nous...
Mais leurs fientes ont un rôle écologique pour...
Eh ben la fiente, c'est ce qui permet aux arbres de pousser. Quoi. Nous, ça fait 15 ans qu'on n'a pas fertilisé les arbres autrement que par la présence de nos volailles.
Ouais.
Donc, du coup, ça tourne en rond. Quoi.
Vous les déplacez tous les combien, à peu près?
Alors, dans la théorie, tous les 15 jours. Après, il y a aussi tout l'aspect logistique, tous les mois environ.
Et elles, ça les dérange pas? Enfin, elles voient pas de...
Alors, les poules, ça s'habitue. La première fois, elles ont un petit stress. On a une chute de ponte. Et puis après, ça leur fait plus rien. Non, non. Ouais. Et puis, elles sont contentes quand elles passent un truc beaucoup plus vert.
Alors, pour les spécialistes qui connaissent bien la question des poules, là, il y a beaucoup de mâles, en fait, chez vous, Sébastien. Il y a donc tous ces coqs, alors que d'habitude, on les vire, les mâles, hein, dans les exploitations.
Ben ouais, nous, quand on fait notre reproduction, c'est 50% des mâles, 50% des femelles, en fait, en gros, ouais. Pour tous les animaux.
Alors que d'habitude, on tue tous les mâles.
Ben, pour quand on fait de l'élevage de poules pondeuses, on a vraiment des races destinées à la ponte, et donc les mâles, ils n'ont pas de qualité bouchère qui font que, du coup, ils sont tués. Là, aujourd'hui, on va les identifier, on va dire, dans l'œuf et on va casser les œufs. Nous, ouais. On les garde et ces coqs, ils deviennent des poulets sur la ferme.
Ouais.
Voilà. Et ensuite, ils sont vendus poulets, quoi. Mais ils font leur vie de poules domestiques, quoi. Ouais. Ils sont pas là non plus que pour manger papillons et.
Donc,
les papillons, ils finissent aussi en bouillon.
Baptiste Morizot, on parlait tout à l'heure rapidement des pesticides, mais comment est-ce qu'on peut, pesticides ou pas pesticides ou bio, comment est-ce qu'on peut quelque part faire fonctionner ensemble l'agriculture et le sauvage? Est-ce que c'est possible?
C'est possible en changeant radicalement de modèle agricole. Et c'est possible en se libérant de toute une série de contraintes économiques qui pèsent sur la paysannerie, enfin l'agriculture contemporaine. Parce qu'il faut bien voir qu'ici, vous êtes dans un écrin qui a une sorte de force de vie, mais c'est aussi, enfin, ce qui est derrière, c'est quelque chose de conflictuel. C'est-à-dire que là, il y a des alternatives fortes prises par Seb et Elsa pour changer de modèle économique, pour faire du circuit court, pour ouvrir des magasins de producteurs, pour se libérer des cahiers des charges longs. Et il y a un modèle alternatif qui est en désaccord avec le modèle dominant. Et ça implique des frictions, des conflits qu'il faut assumer, qu'il faut regarder en face.
Mais revoir le système, est-ce que c'est possible? Parce qu'en plus, ça impliquerait que ce soit au niveau mondial. Donc, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui, à terme, plutôt à moyen terme, on va dire, puisse être fait ou pas?
Je pense que oui, bien sûr que c'est possible. Après, je ne suis pas du tout prophète et je ne sais pas dans quelle mesure ou à quelle vitesse ça se fait, mais il y a toute une série d'organismes qui militent pour ça. Donc là, il y a un enjeu de montrer que localement, c'est possible de faire une ferme qui est rentable, qui est vivante, qui est enthousiasmante. Et après, ça se réticule à tous les niveaux. Il y a par exemple un collectif qui s'appelle Pour une autre PAC, pour une autre politique agricole commune, qui défend des réformes qui iraient dans ce sens-là à l'échelle de la politique agricole commune.
Oui, aujourd'hui, c'est jamais voté. Il y a qu'à voir le vote il y a quelques semaines.
Ben ouais, mais il y a rien d'autre à faire. Donc, ce qui nous fait le nouvel matin, c'est d'essayer de le transformer. Et aujourd'hui, c'est désespérant. Mais peu importe. Demain, on se lève encore et il faut continuer.
Donc, il faut lutter contre cette opposition binaire, finalement, entre l'idée d'une agriculture et de l'autre, un monde sauvage qui se rencontrent jamais au fond. Hein.
Absolument, parce que l'un des enjeux aujourd'hui et l'un des discours de greenwashing de l'agriculture productiviste, c'est de dire, continuons à faire des usines à végétaux qui détruisent tout le vivant parmi elles, et puis on va vous laisser quelques réserves qui seront laissées tranquilles par ailleurs. Et l'enjeu, c'est de dire non, il faut laisser du vivant tranquille dans certains endroits, mais même en agriculture, il faut arriver à faire de la place à des dynamiques sauvages, parce qu'elles méritent d'être là et parce que c'est elles qui donnent de la vitalité à l'écosystème.
Sébastien Blache, hier a été rendu public les résultats d'une gigantesque enquête menée par l'INRAE et l'IFREMER sur les effets nocifs des produits phytosanitaires, donc tous les pesticides. On voit que l'agriculture, évidemment, est particulièrement touchée, avec des effets contaminants sur les insectes, les batraciens, etc., des niveaux très très importants. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous ?
Moi, ça m'inspire beaucoup de tristesse, parce que je pense que des solutions, il y en a. Aujourd'hui, on n'est plus dans à chercher et à comprendre. On sait que ça a un bénéfice immédiat d'utiliser des pesticides. Mais le prix à payer pour l'avenir est tellement lourd qu'il faut trouver d'autres solutions. Et nous, le modèle qu'on explore sans pesticides montre que si on recherche de nouveaux équilibres, comme ce que disait Baptiste, c'est possible. Et moi, ce que j'ai envie de faire comprendre aux autres agriculteurs, c'est qu'il y a une autre manière de voir un rapport à la pratique de l'agriculture et on peut vivre de ça.
On va en parler parce qu'ils viennent aussi, les agriculteurs qui font du conventionnel viennent aussi voir ce que vous faites ici. Donc j'aimerais bien que vous nous racontiez tout à l'heure ce que ça donne comme échange. Elsa, ça fait une demi-heure là déjà qu'on est ensemble. J'ai l'impression que finalement le meilleur pesticide, c'est la diversité, si j'ai bien compris votre démarche. On pourrait dire des choses comme ça?
Oui, on peut dire ça, oui. La diversité, en fait, ce qu'elle nous amène, ce qu'elle nous permet, c'est de ne pas prendre de risques. Économique notamment. Donc s'il y a une chose, par exemple les fruits qui gèlent ou une culture qui rate comme le colza cette année qu'on a broyé parce que il a rien donné, ça nous met pas en péril économiquement. Donc rien que sur cet aspect-là, c'est déjà tout gagnant.
Allez, on va découvrir ce que la nature apporte quand on la laisse également totalement libre. Il y a une friche juste à côté de nous, une mare, et là les mares également suscitent toute votre attention. Mais pour le moment, il est 14h33 et c'est l'heure de Camille Passauvert.
France Inter. La Terre au carré.
Et Camille, vous êtes donc partie sur les traces des serpents.
Oui, parce que le printemps, c'est aussi la sortie de l'hibernation, bien sûr, pour plein d'animaux, dont nos amis rampants. Je suis donc allée les guetter sur le terrain avec deux spécialistes frétillants.
Oui, là, on est au taquet en général. Le mois avril-mai, ça peut être vraiment sympa.
C'est un peu la chasse au trésor.
La chasse au trésor, voilà, ils sont à fond. Et aux aguets, Alexandre Movia, spécialiste des reptiles à la LPO, et Manon Eudes, herpétologue, parce que les serpents, après 5 mois de pause, reprennent vie. Ils chassent, cherchent des partenaires et se reproduisent pendant que les herpétos, on dit comme ça dans le jargon, les observent.
Donc là, on arrive devant la première plaque.
Les plaques, c'est une astuce pour repérer les reptiles. Des morceaux de caoutchouc épais ou de moquette un petit peu solide qui sont posés par terre.
La plaque, elle va capter le rayonnement solaire et elle va chauffer. Et donc, les reptiles vont pouvoir se mettre dessous à l'abri, donc augmenter leur température corporelle sans se mettre en étant exposés aux prédateurs. Donc là, ils sont à l'abri. tranquille. Et ben nous, on arrive et on soulève doucement, on regarde ce qu'il y a et on repose la plaque. Et des fois, ça marche. Et là, on va voir.
Attendez, juste avant de souvenir, s'il sort et qu'il passe entre mes jambes, je fais rien, on est d'accord?
Non, non,
okay. Non, non, ça craint rien. Et de toute façon, il aura tendance à partir vers les broussailles, mais bon, on sait jamais.
Possible que je pousse un petit cri, si c'est le cas.
Alors.
Allez, qui soulève? C'est vous, Manon?
Un Walou, hein?
Walou, rien.
Là, on est sur une température qui est déjà très probablement trop élevée, quoi.
Donc, il n'y a rien.
Donc, il n'y a rien dessous. Enfin, il y a deux fourmilières.
Alors, vous avez entendu, température trop élevée. Le cagnard, très peu pour les serpents, malgré ce qu'on croit.
Ils ne vont pas rechercher la chaleur à tout prix. Hein. En général, leur température interne, ils essayent de l'avoir autour de 30-32 degrés. Et du coup, là, s'ils ont déjà pris suffisamment le soleil, ils se sont replanqués.
Ah, nouvel essai. Bon, là, il n'y a rien. Et de l'autre côté?
Toujours pas de serpent.
Dommage.
Garde-moi espoir.
Il faut être persévérant quand on fait de l'herpétologie et il faut toujours penser qu'à la prochaine plaque, il y aura un serpent.
C'est d'ailleurs très frustrant. Moi, ça m'est arrivé déjà plusieurs fois cette saison. On se balade, on galère à observer ce qu'on cherche à observer comme reptile. Et puis là, on voit un rapace qui passe au-dessus de nous avec un serpent dans les serres. Et on se dit, bon, bah, il est vraiment plus doué que nous et lui, il l'a trouvé sans problème, quoi.
Ah, les anecdotes d'herpétologue. Alors attention, hein, derrière, il y a une véritable mission scientifique. Inventorier puis suivre les populations. Sur les 14 espèces présentes en France métropolitaine, il y en a 9 dans la Drôme. Top liste.
Vipère à spic, couleuvre à échelon et la couleuvre de Montpellier, coronelle girondine, coronelle lisse, couleuvre à collier, couleuvre vipérine, couleuvre d'esculape, et la couleuvre verte et jaune. Alors elle, on va la rencontrer à peu près partout. C'est peut-être le serpent le moins sensible aux dégradations des milieux, puisque même moi, dans mon jardin, dans Valence, j'en ai eu.
Toutes les espèces sont aujourd'hui protégées, hein, je le rappelle, sur le territoire, d'autant qu'un reptile sur 3 est menacé. Donc pas touche, renouer avec le vivant, bah, c'est aussi renouer avec les serpents.
Apprendre les bases de ce qu'il faut savoir sur ces animaux et de côté un peu les préjugés.
Quand on comprend la biologie d'une espèce, ses comportements, etc., bah, en fait, juste on n'a pas peur, on observe et on kiffe l'observation au moment où ça arrive, quoi.
D'ailleurs, toujours rien à l'horizon.
Là, on aura plus de probas.
Là, on est dans les herbes hautes quand même.
Ouais.
Ouais. On est d'accord qu'avec mes baskets, je risque rien.
Pas au niveau des serpents, au niveau des ronces un peu.
Eh oui, ce ne sont pas les serpents les plus menaçants. Chers opiophobes, écoutez bien ce qui suit.
Quand je suis au reptile, je marche tout doucement en essayant de regarder autour de moi ce qui se passe et en évitant de trop faire de bruit avec mes pieds et de trop faire bouger la végétation.
Donc aux auditeurs ou auditrices qui voudraient pas tomber sur un serpent, au contraire, c'est pas une légende, il faut marcher en faisant des grands pas, des grands bruits et des grands booms, c'est ça?
Il vaut mieux, oui, faire du bruit, enfin taper des pieds, faire de la vibration. Mais bon, que les auditeurs se rassurent, ils ont très largement tendance à partir devant nous avant qu'on les ait vus. Donc voilà, vous avez vraiment pas de chance si vous marchez sur un serpent.
Il ne sautera pas dessus non plus, Manon, on est d'accord?
Ah non, 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 il vous sautera pas dessus. Pour parler plus précisément même des vipères, pour elles, c'est une dépense d'énergie de mordre pour se défendre, de mordre un humain par exemple, et d'y mettre son venin, parce que ça veut dire derrière difficulté pour se nourrir. Donc il y a même ce qu'on appelle des morsures blanches de vipères qui, si vraiment elles n'ont pas le choix, elles vont mordre pour se défendre, mais elles vont pas y mettre de venin.
Je crois qu'en plus c'est des herpétologues en général. Hein,
Franchement, moi, tous les gens que je connais autour de moi qui se sont fait mordre, c'est des herpétologues.
De toute façon, déjà pour les voir, là on les cherche, on les voit pas. Donc,
Ah bah ce sera bien représentatif. Sinon, ce sera un peu plus fake. Hein,
c'est ça.
T'as senti, t'as dit serpent.
Ouais, 12, 13, 14.
C'est pas très réaliste.
Donc là, le fait qu'on n'en voit pas, c'est réaliste.
Tout à fait.
Ok. Et après 2 heures de recherche, nada.
Je suis sûr que pendant la semaine, vous allez en voir, alors que je ne les chercherai pas.
Et bingo, hein, une coronelle girondine mercredi. Alexandre l'a ajouté dans ses données.
Camille en classe verte toute cette semaine, donc, et c'est à retrouver en intégralité sur franceinter.fr.
J'ai tout essayé, ouais, pour voir un serpent. Elsa Gartner, on parlait des poules tout à l'heure, elles font la vie dure aux serpents. Il y en a ici, évidemment, j'imagine.
Il y a des couleuvres vertes et jaunes. Alors moi, j'en ai croisé, oui. Les poules, je sais pas, non. Je pense que les couleuvres sont bien plus rapides.
Sébastien Blache, vous avez des plaques aussi, hein, sur la ferme. Vous en avez combien?
Nous, on a 12 plaques et on a des serpents en ce moment dessous. C'est dommage.
Oui.
Mais je vais y aller.
Que hier, on en a soulevé une, il n'y en avait pas. Hein, pardon. Hein. Donc ça marche pas à tous les coups non plus. Hein. Ouais. Elsa, les serpents vous ont inspiré justement votre... c'est un peu l'emblème de l'année, finalement, pour votre association Ferme Paysanne et Sauvage. Hein.
C'est ça. Ouais. On a choisi le thème des serpents cette année. L'année dernière, on avait pris les bandes enherbées. Et cette année, donc, on a décidé dans notre association, dans chaque ferme, d'installer des plaques pour observer les serpents et des gîtes de ponte pour les plus motivés, construire des gîtes de ponte pour préserver un peu les populations de serpents au niveau national.
Baptiste Morisot, comment est-ce qu'on doit réfléchir à cette espèce de hiérarchisation qu'on fait parfois dans le vivant, c'est-à-dire qu'il y a des animaux qu'on aime et puis d'autres qu'on n'aime pas, avec quand même à la base, il faut le dire, une sorte de délit de sale gueule. Comment est-ce que les gens qui nous écoutent peuvent réfléchir à ça? Parce qu'il y a des vrais phobiques de plein d'animaux, les serpents et plein d'autres. Hein.
Oui, c'est vrai. Je ne sais pas du tout comment on doit réfléchir à ça, parce que c'est une question qui me laisse plus perplexe qu'autre chose. Par contre, il y a un très beau livre là-dessus de Edward Wilson qui s'appelle Biophilia, publié en français. Et c'est un livre dans lequel justement il réfléchit sur la fascination, la répulsion à l'égard des serpents. Et il voit dans ces réactions qui sont des héritages évolutionnaires, c'est-à-dire que c'est pas culturel en fait le rapport aux serpents, le rapport aux araignées. Il voit une révélation de notre lien profond avec le vivant, même dans la répulsion ou la peur qu'on peut en avoir.
Sébastien Blache, nous allons poursuivre notre déambulation sur votre exploitation et là nous entrons dans la jungle, on va dire, en tout cas dans les herbes folles, dans le désordre. Là c'est le bordel végétal, mais c'est totalement assumé. Hein.
Un jardin punk, on pourrait presque dire, la définition
là-dessus.
Mais
en fait on est dans une zone de réensauvagement, en fait on est dans un marais qui renaît.
Un
marais en renaissance.
Ah pardon, oui.
Voilà. Donc là, hop là, regardez les canards là qui s'envolent là.
Ah,
regardez.
Ouais, on est en train de les déranger.
On est en train de déranger un couple de canards colverts.
Désolé les amis.
Et là, il y a encore 15 ans, c'était une parcelle de maïs.
Ouais. Et alors cette friche est un écosystème en soi en fait, hein.
Bah, c'est plus qu'une friche en fait là maintenant pour un botaniste ou un écologue, c'est une carissée même. Ça a même une connotation d'un écosystème qui est en passe de se transformer, puisque ça, ce milieu, il est temporaire. D'ici probablement une dizaine, vingtaine d'années,
ouais,
les arbres et les roseaux vont prendre encore plus d'ampleur.
Alors du coup, là... on en profite, pardon, pour donner un mot sur ce qu'on appelle les adventices, hein, autrement dit les mauvaises herbes. Faut pas les couper, hein, c'est ça?
Mais là, en fait, c'est même plus fort que ça. C'est que ici, il y a eu des adventices la première année, des espèces qui étaient capables de passer dans les cultures, de faire le bond dans les cultures et de nous embêter. Là, aujourd'hui, l'écosystème, il a muté vers un écosystème sauvage dont les plantes sont plus du tout des plantes adaptées à aller dans les cultures. Là, on n'a strictement rien à craindre à ça. C'est bien ça aussi tout l'enjeu de faire comprendre aux agriculteurs que les bandes enherbées, les bords, si on les laisse évoluer suffisamment loin... Il y a une telle distance entre les cultures et l'écologie des espèces qui sont présentes qu'elles ne vont jamais aller nous embêter. Il faut les laisser évoluer, vivre et accueillir toutes les communautés qui vont avec.
Alors Sébastien, j'avance avec mes bottes.
Monsieur Barbotte.
Heureusement que j'ai mis mes bottes et Elsa me suit d'ailleurs parce que c'est aussi un milieu aquatique, hein, cet endroit, Elsa. Et avec une mare, alors évidemment on a du mal à la voir parce qu'il y a toute cette végétation, mais on la sent bien sous nos pieds. D'ailleurs je vais faire gaffe parce que je sens que je vais me casser la figure.
Il faut faire attention... Ah, un agrillon de mercure.
Ah,
t'as failli, Mathieu, aller en prison parce que c'est une espèce protégée.
C'est la libellule ?
C'est une libellule.
C'est celle qu'on a vue l'autre jour,
exactement.
Effectivement, au bord de la rivière. C'est la bleue.
La turquoise,
Ouais. Très très commune sur la ferme.
Exactement.
Voilà. Ah oui. Elle a une tête dessinée en dessous, nous disait Lucille Béguin.
Elle a une petite
Béguin,
tête de taureau sous l'abdomen.
Ah oui, c'est ça.
Elsa, vous avez tout un travail autour des mares ici sur l'exploitation.
Alors oui, il y a un projet de mare. Alors Sébastien, il pourra vous en parler un peu plus. C'est plus lui qui est en charge de ce projet-là, d'installer des mares, une mare à l'hectare. C'est parce qu'on peut avoir...
17 mares, si je fais le mares, calcul.
Du coup, on peut avoir tout plein d'animaux, d'insectes, etc. Sauf que s'il n'y a pas d'eau, ils peuvent pas boire.
Ouais.
Et donc, ils ne seront plus là.
Donc Sébastien, vous êtes en train de les construire, ces mares, c'est ça?
Ouais, on a participé avec l'agglo dans lequel on est là. On a participé à un projet qui s'appelle le marathon de la biodiversité. Pour l'objectif, on a un petit cours d'eau là qui passe le long de notre parcelle et ce cours d'eau, c'est de le rendre vivant en faisant en sorte que il y ait une trame dite turquoise d'habitat type mare, justement des habitats qui sont en interface entre la haie et le cours d'eau.
Oui.
Et sur la ferme, en fait, ça a été identifié comme un réservoir de sites de biodiversité, de sites sur lesquels on pouvait densifier très fortement ça. Et donc aujourd'hui, on est en train de le faire L'année prochaine, les 17 mares seront creusées.
Ouais, Baptiste Morisot, c'est un projet qui vous excite beaucoup, je crois, hein, ces mares, parce que ben ça, au fond, ça illustre aussi ce que vous racontez sur les lieux d'hospitalité, finalement, non ? Et les lieux qui créent de la dynamique dans le vivant.
Oui, c'est ça.
Pardon, Baptiste, il y a une plaque, là. Alors, peut-être qu'on va avoir une couleuvre.
Ah, s'il vous plaît.
Alors là, ce serait formidable. Alors,
celle-là, non, j'allais.
Ah non.
Quel dommage.
Mais moi, je porte la poisse, je crois.
Oui, je pense que Camille, il y a un truc avec Camille.
Non. Camille voit des libellules, mais elle voit moins de serpents. Baptiste, oui, sur l'intérêt des mares.
Oui, donc l'un des gros enjeux ici, c'est ce qu'on appelle l'hospitalité active pour la vie sauvage.
Ouais.
L'idée, c'est de reconstituer des dispositifs qui accueillent des vivants. Donc qui leur donne le gîte et le couvert. Mais ce qui nous intéresse, c'est pas seulement de faire venir des espèces parce que ce serait joli ou parce qu'on pourrait cocher une espèce de mésange en plus.
Ouais.
Ce qui nous intéresse, c'est de faire venir la dynamique qui correspond à une espèce. Et pour ça, avoir 3 mésanges sur la ferme, ça ne produit pas d'effet. Il nous faut 300 mésanges. Et quand elles sont là, elles réactivent leur rôle écologique de prédation, de mutualisme, et elles vivifient tout l'écosystème. Et donc c'est pour ça que quand on fait des mares, on n'en fait pas une, on veut en faire 17, parce que c'est cette idée de surdensité, faire revenir les dynamiques de manière abondante, qui nous anime pour que ça joue un rôle écologique.
Ouais. Et on voit des nichoirs partout, parce que là on retraverse les vergers, Sébastien.
Oui, il y a des figuiers là.
Ouais.
Bah là on voit des nichoirs partout, et même là on va passer juste à côté, vous voyez le nichoir là qui pend le gros là.
Oui.
Là dedans, il y a une chouette chevêche qui est en train de couver même là en ce moment.
Ah ben c'est votre copine parce que vous êtes un grand amoureux des chouettes. Hein.
Exactement. Mais moi, c'est un peu ma fierté parce que cette chouette là, en mettant ce nichoir symboliquement, c'était fort. Mais je pensais pas honnêtement qu'elle allait y venir.
On va pas la déranger, hein. On est d'accord.
Non, si on va pas taper contre le nichoir, elle est là.
Elle est arrivée quand ?
Là, elle y est dedans et regardez la mouche là. Vous voyez, il y a une mouche qui est en train de qui marche là, qui va rentrer. C'est parce qu'en fait, elle est dedans, elle laisse des proies. Donc ça sent très fort, et ça c'est un très bon signe, comme quoi, hop là, elle est vraiment dedans. Là.
Et ça fait combien de temps qu'elle est là ?
Ça fera 3 ans maintenant.
Ah ouais, quand même.
On va filer vers les champs de céréales, on terminera cette émission devant le plus beau champ de coquelicots que je n'ai jamais vu de ma vie, et ce sera après Bernard Lavillier, Je tiens d'elle sur France Inter, vous êtes dans la Terre au Carré.
Je tiens d'elle,
pour la musique.
Ma Saint-Étienne, plus brave que belle, plus frère que fière, plus fière que celle qu'on pas souffert. Je suis noir, je suis belle, je suis fumée, poussière, vacarme assourdissant. Mais ça, c'était avant.
Il faudra que je parte, mais promis je reviens. Poser ma rose fière sur la terre des anciens. Je ferai rugir les gares, les rêves de grands chemins. Il faut bien que je parte pour devenir quelqu'un.
Au quartier du soleil, quand j'apprenais la boxe pour secouer les grilles de l'avenir branlant, brûlant comme une torche que n'éteint pas le vent, j'ai franchi l'océan. Je tiens d'elle, ma Saint-Étienne, plus brave que belle, plus frère que fière, plus fière que celle qui m'a souffert. Je savais pas bien comment devenir ce musicien. Partir loin d'elle, ouvrir mes ailes. Quel visage auras-tu demain, ma Saint-Étienne, ma Saint-Étienne. Ma première guitare, ma petite espagnole, qui ressemble à un voilier. Le manche a tant souffert sous mes doigts malhabiles, mes rires, mes colères. Ma mère qui me l'a offert. Elle m'attend quelque part. Elle m'attend quelque part. Je tiens d'elle, ma Saint-Étienne, plus brave que belle, plus frère que fière, plus fière que celle qui m'a pas souffert. Je savais pas bien comment devenir ce musicien. Partir loin d'elle, quel visage auras-tu demain, ma Saint-Étienne, ma Saint-Étienne.
Les 4 saisons de la Terre au Carré, saison 2, le printemps dans la Drôme.
Voilà, et c'est même la saison 3, le printemps, parce que le 2, c'était l'hiver, voilà, ouais. Avant l'été, dans Bretagne, on vous en parlera tout à l'heure. Allez, on est dans la ferme du Grand Laval, dans la Drôme, chez Sébastien Blache et Elsa Gartner. On se trouve à 10 minutes de Valence seulement, dans un endroit où, on vous le disait, la domestication cohabite avec le sauvage. Baptiste Morisot est également avec nous. Alors là, on s'est arrêté devant un magnifique champ de céréales, Sébastien.
Oui, ben oui.
C'est... Là, vous en avez combien? Plus d'un hectare, c'est
ouais,
ça?
Ouais, un gros hectare, on va dire.
C'est quoi? C'est de
l'orge. Là, ah, on a de l'orge. Oui, et à côté, on a des blés anciens qui sont séparés, là, tout simplement. Et
voilà. Elsa, ça, c'est un lieu, alors, votre exploitation, hein, dans son ensemble, que vous ouvrez beaucoup au public, parce qu'on lit beaucoup de choses sur vous, évidemment. Donc, ça veut dire qu'il y a des scientifiques qui viennent vous voir, il y a des paysans, il y a des journalistes comme nous qui sont très curieux. Ça, c'est une volonté aussi d'ouvrir pour montrer ce que vous faites, hein.
C'est une volonté aussi, en plus, pour les consommateurs, pour que les gens comprennent qu'on peut cultiver autrement.
Ouais.
Parce qu'on n'est pas toujours au courant de comment le producteur, l'agriculteur, le paysan produit ce qu'on mange.
Mm-hmm.
Et donc oui, effectivement, on l'ouvre beaucoup. On fait des journées portes ouvertes, on accueille des journalistes, on accueille du monde.
Vous travaillez que tous les deux, Sébastien et Elsa, sur la ferme?
Oui, ouais, ouais, on est à deux.
Et comment c'est accueilli? Parce que hier d'ailleurs, on en parlait par rapport au verger. Il y a besoin aussi quand même de culture de grande échelle, parce qu'il y a quand même du monde à nourrir. Est-ce que il n'y a pas certains agriculteurs du coin qui peut-être pourraient vous voir avec un regard un petit peu particulier? D'autant que vous avez quand même un profil tous les trois. D'ailleurs, Baptiste Morisot, je vous mets dedans. Vous avez un bagage scientifique. Vous, Sébastien, vous êtes naturaliste à la base. Baptiste, vous êtes philosophe, donc une certaine culture que peut-être d'autres n'ont pas. Donc est-ce que ça peut prendre ce mélange?
Ben, en fait, c'est très préoccupant, effectivement, de la légitimité de ce qu'on est en train de faire par rapport à cette question de la souveraineté alimentaire et d'être capable de produire suffisamment. Mais aujourd'hui, tous les travaux qui sont menés, il y a une thèse en ce moment qui est menée sur la ferme, montre que en fait c'est pas le problème, que nos fermes produisent très fortement à l'hectare et qu'on contribue à des productions qui sont extrêmement diversifiées, des fruits, des légumes, de la viande, des œufs, etc. Et que en fait c'est juste, Baptiste va probablement mieux l'expliquer que moi, c'est juste une autre manière de regarder le monde, mais en tout cas ce qu'on fait nous aujourd'hui, c'est totalement légitime.
En tout cas, Baptiste Morisot, l'idée c'est pas non plus d'en faire une opposition entre le monde conventionnel et ce qui est pratiqué ici, au contraire, hein.
Bah, une opposition, je sais pas, si, il faut assumer une forme de conflictualité, là.
Mais il y a aussi des rencontres qui doivent se faire, quand même. Sinon, ça sert à rien.
En fait, là, ce qu'il s'agit de montrer, c'est que ça marche, c'est-à-dire que ça fait une belle agriculture, qui est économiquement viable pour des exploitants, qui nourrit les gens, qui les nourrit avec des récoltes qui sont saines, et que c'est une alternative qui est soutenable et désirable pour le futur. Et ensuite, bah, bien évidemment, chez des exploitants qui appartiennent à des lobbies qui défendent le modèle ancien, ça grince et ça coince. Mais nous, c'est pas notre problème.
Mais pourtant, ils viennent ici vous voir aussi, vous rencontrer. C'est-à-dire que la porte est ouverte aussi, Sébastien Blache. Hein. Ils viennent régulièrement voir ce que vous faites. Hein.
Nous, on a très régulièrement des groupes de personnes qui sont des agriculteurs dits, entre guillemets, conventionnels, qui sont aussi dans la recherche du changement, et notamment dans la grande problématique de la diminution des pesticides utilisables.
Ouais.
Ça, c'est leur réalité. Et de voir comment nous, on fait pour travailler comme ça. C'est vrai que c'est étonnant quand vous avez des arboriculteurs de la plaine de Croc qui viennent vous voir, qui sont des gens qui ont tous plus de 50 hectares de pêcher, alors que vous avez 3000 mètres carrés de pêcher, vous vous demandez bien où est la mascarade, quoi.
Ouais.
Si c'est eux qui doivent m'apprendre ou moi, quoi.
Mmh.
Et en fait, pourtant, il y a un échange. Et ils viennent, c'est inspirant pour eux de voir, peut-être que ça les rassure, en tout cas. Toute l'équipe de ces arbres qui sont revenus, quelques années plus tard, c'est-à-dire cette année, avec un collègue Brice Lemaire, ils ont posé des milliers de nichoirs à mésanges.
Alors, vous avez créé avec Baptiste Morisot et Maxime Zucca, qui est quelque part dans le coin d'ailleurs.
Ornithologue, mais il va venir nous rejoindre, Maxime, tout à l'heure.
L'association Réensauvager la ferme. Baptiste Morisot, c'est aussi une façon de quelque part théoriser et continuer le chemin qui s'est ouvert là, depuis quelques temps.
Ouais, le but de cette asso, c'est de
d'expérimenter, d'explorer comment faire revenir de la vie sur une ferme à partir d'un changement de perspective. L'idée originelle, c'est que le sauvage s'oppose à l'espace exploité. Et nous, ce qu'on montre à la base, c'est qu'en fait, toutes les récoltes, elles proviennent de dynamiques sauvages. Les pollinisateurs sont sauvages et on ne peut pas faire de fruits sans eux. La faune des sols est sauvage et on ne peut pas faire de récoltes sans eux. Donc on se dit, si on redonne de la vie à ces dynamiques, ça va abriter la ferme, ça va donner de la force et de la vigueur à la ferme pour traverser les secousses du dérèglement climatique. Et c'est pour ça qu'on expérimente des moyens d'accueillir une grande diversité de vie et de dynamiques sur la ferme.
Donc cette ferme, c'est aussi un laboratoire scientifique finalement, parce que c'est un système complexe, ouais, que vous étudiez aussi en le faisant. Il y a de la science qui est en cours, quoi, finalement, Sébastien Blache. Hein.
Ah bah oui, il y a même des choses très très fortes qui se mènent, puisque là, on a même décidé de lancer l'inventaire du vivant de la ferme.
C'est ce week-end, là, c'est ça, c'est d'ailleurs.
Exactement. Demain.
C'est
et
quoi
dimanche.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
demain, il y a 25 spécialistes. Il y a un spécialiste des mollusques, un spécialiste des orthoptères. Donc c'est que les sauterelles. Il y a des spécialistes de vraiment absolument incroyables.
Des escargots, comment on les appelle?
Malacologues.
Voilà.
Et donc, ces gens-là viennent, on les a invités pour participer à l'inventaire du vivant, pour comprendre ce qu'accueille notre ferme. C'est des choses qu'on fait habituellement, on voit des choses comme ça au muséum, dans des îles du Pacifique, et nous on dit, mais oui, nous aussi on a notre responsabilité en termes de ce qu'on porte et de l'avenir qu'on doit laisser, quoi.
Baptiste Morisot sera présent, Charles Stepanov également viendra vous rejoindre. Alors c'est ouvert au public, mais c'est fini pour les inscriptions malheureusement, vous êtes déjà plus d'une centaine, vous accueillez beaucoup de monde et ça va durer donc pendant 2 jours. Encore un mot sur ce champ de céréales, là, cette orge magnifique là qui ondule sous le vent. Il y a aussi un rapport, parce qu'on parle du lien avec le vivant, il y a aussi un rapport finalement avec nos racines, avec presque l'histoire du néolithique, hein, ici.
Ah ben oui, Sébastien Blache, oui, hein. Ben moi, effectivement.
Parce qu'il faut nous raconter ce que c'est que cette orge-là.
Ben moi, surtout, ce que je vois là, c'est ce coquelicot qui est à côté là.
Ouais.
Ce coquelicot qui est en fait la même origine que l'orge, en fait, la Mésopotamie. Et que ces orges qui ont été domestiquées, en même temps, nos ancêtres, les néolithiques, ont trimballé ces graines et les ont dispersées dans toute l'Europe.
Et cette espèce-là d'orge, elle n'a pas changé depuis?
Ben, elle a pas changé, elle a évolué, elle a été sélectionnée. Mais bien sûr qu'elle a bougé. Mais même le coquelicot, lui, il, sans le vouloir, on l'a modifié, on l'a fait. C'est du patrimoine, ça. C'est du patrimoine, ouais, humain. C'est notre culture, en fait. C'est une trace, en fait. Quand je touche ce coquelicot et cette torche, je touche mes ancêtres néolithiques.
Ouais. Coquelicot, plante adventice, on le rappelle. Il y a plein de gens qui le savent pas.
Ouais.
Mais alors là, on va aller voir, parce que c'est vraiment.
J'adore les coquelicots.
Mais justement, Camille, tiens, regarde. C'est vraiment la dernière image que j'aimerais de cette semaine dans la Drôme, parce que moi, j'ai jamais vu ça. Tu vois le champ là-bas,
ouais,
rouge.
C'est hallucinant.
J'ai jamais vu un champ de coquelicots pareil. C'est extraordinaire, parce que les coquelicots aussi ont beaucoup souffert, hein, des pesticides. Et puis, heureusement, on les voit revenir aussi par moment. Et là, vous avez un champ. Mais alors, à quoi ça sert un champ comme ça entièrement de coquelicots? On vous postera les photos sur Instagram tout à l'heure.
Bah en fait, c'est pas tout à fait un champ que de coquelicots. Il y a aussi la culture qu'on fait dedans, le sainfoin. Ouais. À quoi ça sert? Ça sert à rien, en fait.
C'est joli, à nous émerveiller.
Les coquelicots, ils sont là parce qu'ils font partie des stocks de semences qu'on a, qu'on hérite, qui aujourd'hui sont très favorisés par le type de culture qu'on fait, mais demain, elles ne seront pas. Hein, parce que demain, cette prairie va se stabiliser, les coquelicots ne réapparaîtront plus, peut-être avant 10 ans. Tant que je refais pas des céréales dedans, quoi.
Baptiste Morisot, s'émerveiller devant le vivant, c'est important aussi pour faire avancer les choses.
Ouais, ça joue un rôle. Et ça permet de comparer, là, en fait, ce que vous voyez ici. Elsa, elle a fait de magnifiques dessins de la vue du ciel de la ferme qui était là il y a 40 ans avant le remembrement. Ah ben, un Milan, magnifique.
Ça, c'est un Milan au-dessus, ouais. Ouais.
Milan noir.
Et la ferme maintenant, ça permet, en fait, de sentir les effets qu'on peut produire à l'échelle d'une exploitation et à l'échelle de quelques années d'activité paysanne.
Voilà, des coquelicots à perte de vue.
Oh là là, qu'est-ce que c'est, c'est magnifique.
Cette image est extraordinaire. On dirait une peinture de Monet.
Ouais, exactement.
Voilà, exactement. On va vous le mettre tout à l'heure. Soyez
incroyable.
Patients. On va vous faire des très belles photos pour les sites.
On vous survend pas le truc, on vous promet. Voilà. Moi, j'ai jamais vu ça.
Moi
c'est
non plus.
Incroyable.
Elsa, on peut acheter les produits de la ferme ici. Hein. Il y a une boutique ouverte
exactement,
le samedi.
Exactement, ouverte,
hein,
le samedi matin.
Peut-être le mardi, mais ça...
Et le mardi, dès qu'on aura beaucoup de légumes.
Merci infiniment à tous les trois de nous avoir accueillis. Baptiste Morisot, je renvoie évidemment sur votre livre qui nous a réunis aujourd'hui et qui a été publié chez Actes Sud, Raviver les braises du vivant. Oui. Et puis c'est avec vous donc et avec ces coquelicots qu'on achève notre semaine dans la Drôme. On a été tellement heureux de la partager avec vous tous. On partira pour notre été
en Bretagne. Nous serons dans le Finistère précisément.
Du 13 au 17 juin, de la Pointe du Raz à l'île d'Ouessant. En attendant, retrouvez donc les photos, les vidéos de la Drôme. Anna Massardier s'en est occupée. Merci Anna, en tout cas à toi. On peut entendre ta voix aussi.
Salut à tous.
Parce que t'as beaucoup bossé cette semaine. Valérie Ayestaraï, on retrouve qui lundi en studio?
Aurélien Barreau.
Voilà, ce sera notre invité. Interview exceptionnelle d'Aurélien Barreau qui revient uniquement pour La Terre au Carré. Un immense merci à Olivia Branger et Nicolas Mathias pour la technique. Et puis à très bientôt. Merci à Guillaume Rialan. Bon week-end les amis de La Terre au Carré. À très bientôt.
À
ciao,
lundi,
bye
ciao.
Bye.
Au revoir.